Comme tous les midis de cette semaine, nous vous invitons à découvrir un compositeur programmé dans le cadre du festival Les Musiques du GMEM au travers d'une playlist établie par le compositeur lui-même. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Roland Osé qui a présenté vendredi dernier à La Friche Fatal Plumage, une création d'après les Métamorphoses d'Ovide pour trois sopranos, quatre percussionnistes et un dispositif électronique. Donc bonjour Roland Osé.
Bonjour.
Donc, avant de nous embarquer dans votre sélection musicale, j'aimerais vous demander tout d'abord comment vous avez accueilli cette proposition de la playlist. Et comme je ne sais absolument rien de ce que vous allez nous présenter, peut-être nous raconter un peu comment vous l'avez pensé, cette playlist.
Je l'ai accueilli très bien. C'est ce qui était, ce que j'ai compris en fait de la demande, c'est... Quel univers musical a conduit ce métier de faire de la musique du compositeur. C'est un peu comme si on disait, mais un espèce de forgeron, quel bras et quels chevaux il a croisé pour arriver à frapper sur son enclume. Alors du coup, je me suis penché sur cette histoire de ces lumières que j'ai croisées dans l'enfance et jusqu'à maintenant, pour essayer de trouver quelles étaient les ampoules que je pouvais ramener un peu aujourd'hui. Et du coup, voilà, je l'ai accueilli comme ça. J'ai regardé dans ma valise et j'ai vu quelques ampoules et je les ai sorties, je les ai emmenées, voilà.
Alors vous allez nous faire voyager dans votre parcours aussi, comme vous dites, dans tous vos outils qui vous permettent aujourd'hui de composer. Donc là, on a entendu quelques notes, les premières notes de Fatal Plumage qui a été donc diffusée vendredi dernier. Ce seront, je pense, les seules notes de votre travail qu'on va entendre durant cette émission. Première sélection, où est-ce que vous nous emmenez ?
L'idée, c'est de commencer par un groupe qui a été un groupe phare pour moi pour découvrir le rapport à l'électronique, à la voix, à la situation du musicien expérimental sur la scène. Et c'est les Pink Floyd, en fait, qui m'ont fait découvrir cette chose-là. Alors du coup, ça m'a semblé intéressant d'ouvrir le bal un peu par ce groupe qui m'a, au-delà de la musique pop, en fait, qui a un peu ouvert les oreilles de ce côté expérimental intégré dans un dispositif pop, quoi. Voilà. Thank you. C'est une musique longue, en fait. C'est ça qui est étonnant pour... C'est ça qui m'a intéressé dans le temps. C'est que du coup, c'est une musique où les gens de la pop à cette époque ont pris le temps d'expérimenter, de laisser l'expérimentation se développer dans le temps, en essayant de pas... de se foutre des formats, des machins, des trucs, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait à cette époque, évidemment, donc il fallait un choix, c'était celui-là. Mais c'était...
Un choix plutôt... pop, entre guillemets, quoi, qui ouais. allie musique de recherche, enfin, il y a une ouais. vraie recherche électronique, et puis en ouais, même temps, ça. À la fois, ce côté populaire.
Ouais, parce que l'idée, c'est que quand on est là, pour ma pomme, il y a 40 ans, et en gros, le premier son que j'ai entendu, sans doute, c'est le son d'un violon ou d'un piano. C'est évidemment celui d'une guitare ou d'un son électrique. Alors du coup, on a le son de l'enfance qui se trimballe. Et bon, après, les rencontres font qu'on a envie d'aller fouiller dans une direction ou dans une autre. Mais la notion du premier son est toujours là. Alors du coup, quand j'ai entendu les Floyd quand j'étais ado, et puis alors on se dit, ah ouais, en plus il y a une direction sur laquelle on peut tisser une espèce de perspective de travail sur la recherche du son, etc. Donc c'est une brèche qui est intéressante dans laquelle on peut s'engouffrer. Et ça, c'est, on a envie de plonger. En fait, c'est une musique qui m'a donné en fait envie de plonger dans le travail sur le son. Et en essayant de se foutre un peu aussi bien du rapport à la musique classique ou sinon de l'inverse, de la musique purement expérimentale. C'est une espèce de musique qui permet un voyage qui est un espèce de mouvement vers quelque chose qui est personnel. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent simplement que c'est une musique où on peut, une espèce de transe, hein, machin, etc., qui fait qu'on a accès à l'intérieur. Et là, pour ma pomme, c'était simplement de se dire, ayant fait des études de musique classique, ah ouais, il y a un pont possible vers un lien entre la modernité, la tradition, etc. On n'est pas obligé de faire de la pop, on n'est pas obligé de faire de la musique classique. Il y a quelque chose qui peut relier les deux culturellement. Et ce groupe a fait partie, je crois, et fait partie des gens qui ont ouvert cette brèche et ce pont pour voyager d'une chose à l'autre sans essayer de renier, en fait, hein, une chose ou l'autre. Voilà.
Alors, on continue, hein, dans votre sélection. Alors, est-ce que vous l'avez établi avec un ordre chronologique de ce que vous avez découvert?
C'est pas chronologique, c'est plutôt des vis-à-vis. La prochaine plage, c'est une plage d'un compositeur qui est un ami, en fait, qui est Pierre Charvet. Alors, c'est un compositeur qui a fait des études classiques, qui a bossé à l'IRCAM, et qui a fait le cursus d'informatique musicale aussi, et de composition. Et c'est quelqu'un qui est assez exemplaire de ce voyage dont je viens de parler, par les Pink Floyd. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans son imaginaire, a réussi à tisser des ponts entre tradition et modernité sur l'écriture instrumentale et leur relation à l'électronique. Et la pièce qu'on va entendre, c'est un fragment d'une pièce pour voix, percussion et électronique. Et il y a une espèce de résonance, je trouve, au côté expérimental des groupes pop de ces des années Pink Floyd. We'll be right back. C'est un écho, en fait. Hein, je trouve un écho à cet univers des Floyd. Et ce type est vraiment incroyable parce qu'il il fait un travail sur les matériaux électroniques, l'espèce d'impact avec les orchestres, la percussion et des résonances vocales. Et il fait ce boulot, je trouve, où l'électronique vient tisser une espèce de troisième dimension au son acoustique, une espèce de profondeur, une espèce de relation à l'histoire, moi j'entends des espèces de résonances, de cris, de choses un peu presque, quand on voit cette scène, cette musique jouée sur scène, une espèce de relation aussi à la situation du regard sur le monde, etc., une espèce de résonance, comme si lui, il ouvrait une brèche, un cri, et qu'on peut engouffrer dans ce cri des choses personnelles qui nous touchent, etc., etc. Donc je trouve que dans le genre des compositeurs qui font un boulot vraiment sur les textures, le rapport au timbre, etc., et qui en même temps se soucient de pouvoir tisser un imaginaire et que chacun puisse nourrir cet imaginaire et se développer à l'intérieur, il réussit vraiment son pari, quoi.
C'est aussi votre cheval de bataille de travailler avec un dispositif électronique, mais aussi avec des voix, des percussions, enfin d'essayer de, non pas de mélanger, mais de travailler avec ces deux formes.
Ouais, l'idée c'est de... En fait, le travail entre l'acoustique et l'électronique, il est le suivant, c'est que il ne s'agit pas de trouver une espèce de sauce ou d'alliage hein, qui puisse arrondir les choses sur le rapport à l'acoustique, mais l'électronique permet souvent de pouvoir métamorphoser, en fait, pour le coup, les sons acoustiques et de pouvoir donner une dimension et un regard un peu différent dans la perspective au son acoustique. Et ce qui est aussi, évidemment, c'est que le son électronique, on ne le voit pas. Alors du coup, on sait très bien depuis pas mal de temps que ce qu'on ne voit pas nous permet de projeter des choses qui sont souvent assez intéressantes. Alors du coup, l'alliage de l'acoustique et l'électronique entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas est intéressant. Et le travail de mixité entre les deux, que ce soit avec la captation des sons acoustiques et puis la modification en temps réel, ou soit la lecture de sons électroniques en parallèle, sont intéressants aussi parce que le temps réel, du coup, est un peu comme une ombre portée. Hein. C'est un peu comme une ombre du son acoustique, alors que le son électronique mis en parallèle est plus comme une espèce de narration bis de l'acoustique. Alors entre les deux, c'est intéressant parce qu'on a du coup on a une polyphonie du son acoustique et en plus une ombre portée de ça. Alors et du coup on peut jouer sur le flou entre les deux et ça devient intéressant vraiment. On peut parler du troisième.
Tout à fait. Nous pouvons en parler.
Et le troisième candidat.
Enfin vous pouvez en parler.
Ouais. Le troisième candidat c'est John Cage en fait. Et John Cage évidemment un compositeur incroyable au XXe siècle. Mais on va entendre une chose un peu contradictoire, enfin pas contradictoire, mais vraiment en écho lointain de ce que je viens de dire précédemment pour les Pink Floyd ou Pierre Charvet. Et c'est une pièce pour piano qui s'appelle Imaginary Landscape. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer John Cage à Darmstadt en Allemagne quand il y avait les cours d'été. Et on s'est croisé dans la cantine, puisque Darmstadt était un séminaire où ça se passe dans une école. Et tous à la fois les compositeurs, les étudiants et les instrumentistes mangeaient dans une cantine là. Et donc je ne l'ai pas vraiment rencontré. Enfin, c'était une rencontre dans le sens où j'avais mon plateau et dans la file d'attente à côté de lui. Et puis du coup, on a mangé. Et on a parlé. Et
non, c'est une façon de rencontrer John Cage de manière originale.
Ouais. Et ça pour dire que, du coup, on a parlé de la nourriture. Et il m'a beaucoup expliqué la relation entre la composition et la cuisine, comment il avait quelque chose de très particulier, lui. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que les ingrédients de la cuisine, par rapport à la composition, les matériaux, la relation à la fois sociale et sur le sens de la musique et sur l'acte du compositeur étaient identiques. Si, quand on parlait de la malbouffe, il y a une malbouffe musicale en fait. Et il faisait des ponts hein, entre les deux souvent.
Et, des mayonnaises qui ne prennent pas.
Des mayonnaises qui ont tourné plutôt en fait. Hein. Je suis plus méfiant des mayonnaises qui tournent que des mayonnaises qui prennent pas. Les mayonnaises qui prennent pas, finalement, c'est pas si gênant que ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Et moi, j'ai essayé de faire plusieurs fois des mayonnaises en oubliant de mettre des œufs en fait dedans, parce que je ne suis pas bon cuisinier.
C'est une vinaigrette, ce n'est plus de mayonnaise.
Mais lui, il disait des choses évidemment passionnantes sur ça. Et j'ai trouvé que Imaginary Landscape, ce qui est une pièce incroyable sur la sensibilité et sur sa sensibilité, et comment il lui vivait en plein New York en fait, hein, et vraiment dans une espèce de fracas. Et il disait que au milieu de ce fracas, il entendait des perles de choses. Et je trouve que cette pièce, c'est les perles qu'il entendait.
John Cage.
Et ça fait penser que ça fait penser à cette phrase qu'il est le un coup de dé n'abolira jamais le hasard en fait. Hein. Et Cage, il était assez friand de jouer avec les chiffres. Et ce qu'on sent bien dans cette pièce, c'était d'espèce de relation à la musique sérielle, bizarrement, mais investie d'une espèce de relation aussi au mode, c'est-à-dire de la relation entre les notes avec une articulation qui lui est propre, hein, qui est son univers, des intervalles, etc. Et je trouve, en réécoutant ça, que il permet de s'aventurer. Et j'ai l'impression à chaque rupture, à chaque tournant de la pièce, c'est un peu comme s'il relançait les dés à partir d'une même organisation des notes. Et je trouve ça, ce type nous donne une vraie leçon d'humilité et de simplicité à la musique. Hein. Il est là avec ses quelques notes, avec ses 7, 8, 9 notes. Et il construit un monde comme ça et puis il relance les dés. Et il accepte de se perdre, il accepte d'attendre. On a des moments où on sent concrètement qu'on attend quelque chose. Et hop, il relance la partie. Ça fait aussi penser tout ce travail qu'il a fait avec Cunningham sur la relation à la musique et la non-relation entre la danse et la musique. Ou disons sur une relation de vie parallèle, etc. Et je trouve ça d'une grande humilité, hein, en fait. L'espèce de recul et de choses précieuses, de regard sur le monde, de poser simplement des petites choses et d'accepter de n'être qu'une petite chose et de qu'elle soit partagée par tous ou le plus grand nombre, tout en étant assez, évidemment, toujours exigeant intellectuellement par rapport à ces petites choses. Et du coup, je vois sur la liste, le prochain, c'est Bach. Et évidemment, le grand joueur avec les chiffres, alors pour le coup... dans la résonance toujours reste, parce que les miroirs m'ont intéressé par rapport aux époques. C'est aussi le virtuose des chiffres, mais pour plein d'autres raisons. Alors, c'est ça qui m'a fasciné, c'est qui fascine en gros tous les compositeurs en Occident et même ailleurs, hein, finalement. C'est ce grand Manitou de la numérologie qui est Sébastien Bach. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de composer donc peut-être la première pièce Roland Osé, enfin, qu'est-ce qui à un moment a été peut-être le déclencheur pour vous
d'écrire de la musique. Ouais. Et mais en fait, la musique, je l'ai rencontrée parce que j'ai pratiqué d'abord la musique en tant qu'instrumentiste. J'ai joué le piano et de la percussion et j'en joue encore en fait. Et petit à petit, le fait de rencontrer des compositeurs, de jouer leur musique et puis de... Il y a quelqu'un dont je peux parler ici qui est Georges Boeuf, en fait, parce que j'étais étudiant au conservatoire à Marseille il y a beaucoup d'années. Je peux dire que c'est le type qui un jour m'a dit mais c'est possible d'écrire de la musique et c'est pas parce que mon éducation m'a pas permis en fait au départ de rencontrer des gens, des intellectuels, des compositeurs et autres. Alors du coup, lui m'a dit que c'était possible et je suis très fier de l'avoir croisé. Mais il fait penser un peu à John Cage, Georges Boeuf, d'une certaine manière, sur la simplicité du rapport à l'écriture et à l'œuvre. Et ce qui m'a permis, c'est qu'il m'a dit que c'était possible. Alors du coup, je me suis dit, il m'autorise. Voilà, il m'autorise à le faire, à l'essayer, puis depuis j'essaye. Voilà. Mais on va écouter Bach. C'est un extrait de la messe en si, en fait.
Thank you.
Et on a la même, je trouve qu'on a la même construction que la pièce de Cage. C'est-à-dire on a une espèce d'ostinato un peu minimum avec les cordes. Et Bach a cette espèce de chose géniale et inconnue qui est cette espèce de roulette à chiffres, harmonique et mélodique. Et c'est un peu comme une, pas quelque chose de carré mais de rond. Il imbrique en fait des engrenages qui sont d'une efficacité redoutable, pour justement pour la mise en perspective de l'harmonie et de la mélodie. Et puis voilà, on a l'impression qu'il dit tout avec très peu de matériaux. Et en fait, depuis le départ, si on regarde les Floyd, Charvet, Cage, Bach, moi j'aime beaucoup les compositeurs qui utilisent un peu comme ça une espèce d'écologie musicale et comment ils trouvent les petits cailloux dans le parcours et comment on peut arriver à raconter le monde avec ces petits cailloux. Hein, et ces compositeurs l'ont fait, du coup.
Et justement, raconter le monde, comment, au travers de la musique contemporaine, on peut apporter un sens ou recontextualiser cette musique-là dans un monde d'aujourd'hui avec des problématiques que l'on connaît. Parce que souvent, quand on est... quand on n'est pas spécialiste, on va dire, de ces musiques, on a peut-être du mal parfois à se raccrocher ou à faire des liens avec le monde, justement.
Ouais, c'est évident, c'est que le monde est complexe. Alors du coup, la musique aujourd'hui, elle n'est pas simple. Mais ça pour dire que il y a une chose qui est magique, c'est quand même... Moi, je trouve que le métier de compositeur, il y a à la fois cette notion de témoignage, de regard sur notre environnement et d'essayer de, non pas d'essayer de répondre, mais d'essayer d'organiser des questions musicales hein, avec le public et d'essayer de, avec les interprètes, de aussi réfléchir sur qu'est-ce que ça a du sens d'être sur un plateau face à partir d'une personne et d'essayer de raconter quelque chose, que ce soit avec un instrument, avec un texte ou avec un corps. Alors du coup, à la fois la notion de témoignage et à la fois la notion du statut de ce métier de l'artiste, nous questionne tous sur la représentation aussi. C'est hallucinant aussi, on est tous maintenant, de toute façon qu'on le veuille ou non, acteurs de quelque chose dans la vie de tous les jours. Alors du coup, continuer à se poser des questions sur la représentation. Est-ce que ça a du sens de continuer à convoquer des gens à 21h un soir, etc. ou à minuit ou 2h du matin, peu importe. Et alors du coup, et puis si on les convoque, qu'est-ce qu'on leur raconte ? Qu'est-ce qu'on témoigne de ces choses ? Et en même temps, eux aussi sont témoins de ce rassemblement. Alors, et moi, je trouve intéressant de continuer à être l'artisan du rassemblement de ces choses-là, en essayant de foutre au milieu, là, du coup, les outils d'expression d'aujourd'hui. Un type qui réfléchit avec son stylo, son ordinateur, avec des images et d'essayer de comprendre un peu deux, trois trucs sur ce rassemblement spécifiquement. Fatal Plumage, c'est l'idée de rassembler des gens autour de cette réflexion d'Ovid sur la métamorphose, sur le corps, parce qu'il y a un contorsionniste et des chanteuses qui évoluent dans un dispositif scénographique particulier, d'essayer de regarder en fait et de comprendre et de penser tous ensemble pendant une heure sur cette question du corps, des sons, et comment on métamorphose avec le grand maître Ovid une perspective sur aujourd'hui l'évolution de nos corps, nos pensées, et aussi bien sur le politique, le métaphysique et autres. Et c'est simplement, moi je ne me sens pas plus que l'artisan de ce rassemblement-là, quoi.
Quand vous écoutez Bach, justement, qu'est-ce que vous ressentez de ce qu'il a voulu dire à son époque ? Est-ce que ça paraît décalé aujourd'hui ?
Non, en fait, moi, je ressens plusieurs choses. D'abord, j'écoute et j'ai un esprit d'analyse, en fait, quand j'écoute de la musique. Alors, Bach, il est, comme je disais tout à l'heure, le grand maître des chiffres. Alors, du coup, j'essaie de comprendre sa mécanique. Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la dimension spirituelle qui lui est cher. Alors du coup, j'essaie de m'en raconter quelque chose, même si je ne suis pas du tout versé, ni religieusement, ni spirituellement, dans le même schéma que lui. Alors j'essaie de me raconter, ou disons d'écouter le message spirituel, déconnecté de la chose spécifique. Et pour finir, moi je trouve qu'il est le grand ordonnateur de la mise en perspective du travail des instruments par rapport aux voix. Alors du coup, voilà, c'est une troisième chose qui me fascine. Mais je ne suis pas du tout passionné, en fait, hein, de cette musique. Je suis plutôt j'ai plutôt un regard assez, assez à la fois bienveillant et critique sur la musique de cette époque. Et le prochain candidat, c'est Varèse. Et Edgar Varèse. Et évidemment, Edgar Varèse, alors là, c'est pour moi, c'est le compositeur qui a fracassé le XXe siècle. C'est évidemment lui. Il l'a fracassé avec sa musique, qui est minimale, en fait. Si on achète les œuvres complètes d'Edgar Varèse aujourd'hui, c'est un double CD, point barre. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que... Il a intégré, alors pour le coup, dans le sens de l'actuel, de la modernité, de la relation à l'industrie, parce que de la relation à la mécanique, du geste musical dans la musique, du geste mécanique dans la musique, etc. Et même de l'électronique. Pourtant, c'est un compositeur qui a existé dans les années 20, 30, 40, hein, où les machines, en fait, pour produire des sons électroniques étaient quasi inexistantes, hein, à part les bandes, c'était très archaïque. Et il a fait naître cette chose-là avec d'autres, Pierre Schaeffer, etc., qui sont à l'origine de tout le courant de musique concrète. Mais Varèse a eu ce geste incroyable, cette humilité incroyable de permettre, en fait, au monde et à la civilisation industrielle d'être mis un peu en perspective et en défaut par rapport à la relation à l'homme. Et donc il a introduit cette dimension de la mécanique et du mécaniste dans les éléments musicaux. Et là on va entendre en fait un poème électronique, c'est une première pièce électronique, c'est une espèce d'archive, hein, c'est très rigolo. Mais on voit très bien qu'il... Il ne se défait pas de sa poésie, il est éminemment de son temps, et je trouve qu'il reste à ce temps-là, et par rapport à cette notion de témoignage, éminemment d'une autre, du coup.
Ça date de quand ?
C'est 30, un peu avant les années 40.
Thank you.
C'est hallucinant, ce type faisait ça il y a 50 ou 60 ans. Et on disait, vous disiez, il devait se sentir seul. En fait, c'est un compositeur qui a voyagé, qui a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis aussi. Hein, bon. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale est passée par là, mais il.
Mais à cette époque, c'est évident qu'il n'y avait pas de public pour ce type de musique, ou alors c'était vraiment un petit noyau très restreint de. Presque de chercheurs.
Mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de public pour l'expérimentation, je crois. Et il était comme un, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que il était comme un laborantin hein, de la musique. Varèse, il a expérimenté, il s'est senti, je crois, dans ce métier de l'expérimentation très à l'aise. C'est ça que je ressens, il est libre. Hein. C'est très étonnant, je trouve. C'est une musique qui est... Au-delà de l'esthétique ou même du temps, on sent qu'il y a une liberté hallucinante dans le geste, hein, et la générosité, et le fait de prendre le temps et d'accuser le fait qu'il expérimente le son et le langage. Et c'est ça, en ça, où il y a une force incroyable. Et pour finir, en fait, il y a un dernier compositeur qui est son pendant, hein, pour moi, c'est Xenakis. Xenakis, Yanis Xenakis, qui est un compositeur grec, enfin, d'origine grecque. Mais Xenakis, il se revendiquait en fait plus un descendant, c'est un mauvais mot, mais quelqu'un qui a été en écho de Varèse plutôt que de Stravinsky. Hein, plus sur le travail, sur en effet les masses musicales, le rapport à la densité, etc. Et c'est quelqu'un qui a été un anti-sériel, hein, très fort, et qui a combattu même Boulez et toute l'école de Vienne, pour justement se ranger du côté des gens qui ont tissé des perspectives sur la relation à l'espace et l'architecture, parce qu'il était architecte aussi. Alors du coup, avec Varèse, je crois, même ils se sont rencontrés, etc., mais Xenakis a construit dans le droit fil de ce rapport-là, entre la musique et l'espace. Et pour moi, Xenakis, il a été aussi parce que j'ai rencontré la musique avec la percussion, il a été ce compositeur qui a donné un éclairage un peu fondamental de la percussion au XXe siècle, avec un rapport à l'instrument, au timbre, au discours musical, la percussion soliste sortie du côté précautionneux et précieux de la relation à l'ensemble orchestral, pour la mettre vraiment dans une très proche finalement de quelque chose de terrien, de tellurique, hein, mais un discours scientifique et un vrai travail sur le timbre et sur les masses, etc.
Vous avez travaillé avec lui ?
Oui, j'ai aussi vraiment eu plus de bol qu'avec Cage ce coup-ci, mais dans le sens où on a vraiment collaboré sur... D'abord, j'ai enregistré de la musique de lui, alors du coup, c'était super. Et ensuite, j'ai réalisé en 97 un projet aussi dans lequel il était... On le construisait un peu ensemble. Donc, on a travaillé plusieurs mois ensemble sur l'écriture même et la conception d'un projet artistique. Et c'est quelqu'un qui reste très présent sur la relation au métier du compositeur. Hein, justement, il me disait toujours qu'il allait à son atelier écrire le matin de 9h à 13h. Il se forçait, que, quoi qu'il se passe, pour aller continuer à poursuivre les sons et le discours musical. Là, il allait gratter tous les matins. Il y a une espèce de relation aussi au geste de l'artisan, du laborantin. Et c'était quelqu'un d'une humilité hallucinante et justement un peu comme Cage, quelqu'un qui n'écoutait pas le monde, mais qui essayait de le regarder et d'essayer, en le regardant, de faire naître du son de ça. Et ces gens-là apprennent beaucoup dans sa direction.
Yanis Xenakis, donc, qui était le dernier candidat, comme vous dites, Roland Osé, dans cette playlist. Donc, on vous a proposé avec le GMEM, découverte un petit peu d'un compositeur au travers d'une sélection musicale. À propos de tambour, vous n'avez pas parlé d'un projet important dans votre vie, qui est le Cirque du Tambour.
Le Cirque du Tambour, c'est le fruit en fait de mon itinéraire. Je suis évidemment compositeur, musicien, mais j'ai fait l'école de Cirque Fratellini en fait quand j'étais plus jeune.
Donc avec des dons d'acrobate.
Ouais, je faisais de la corde volante en fait.
D'accord.
Et dans mes multiples activités d'écriture, j'ai une compagnie qui s'appelle le CID CRA, CRA voulant dire Compagnie Roland Osé. Et on génère en fait des rencontres souvent entre la musique, les artistes de cirque et les technologies. Et on a fait trois projets, dont le Cirque du Tambour était le premier. Et donc ensuite, on a fait un autre projet qui s'appelait Schlag, qui était tiré du roman Le Tambour de Günter Grass. D'accord. Et voilà, et ça veut dire qu'on toujours cette histoire de raconter, d'essayer d'avoir un regard spécifique sur un moment, un thème, une idée, une couleur, une esthétique, une vision, une relation politique. La relation au corps est très présente, nourrie de ce cursus de faire de la corde volante ou de la percussion ou de la composition. Alors du coup, ça met en scène ce croisement pour raconter ce qu'on a envie de raconter à ce moment-là, quoi.
Merci beaucoup Roland Osé, c'est vrai qu'on pourrait continuer comme ça à vous écouter puis à nous faire écouter aussi des musiques. À bientôt, demain à midi, juste après le CIPM, un autre rendez-vous avec un compositeur qui nous embarquera dans un autre univers sonore et musical certainement. Voilà, bon après-midi à tous et tout de suite les infos de Radio France Internationale.
Merci à vous.